Culture Club, en partenariat avec la librairie La Procure. Christophe Maury.
François Varillon était né le 28 juillet 1905 à Bron, près de Lyon, et puis il est mort le 17 juillet 1978 à Bron, également. C'était un père jésuite, un théologien français dont les ouvrages de formation et de théologie chrétienne ont marqué la spiritualité du XXe siècle. Auteur de « Joie de croire, joie de vivre », déjà un recueil de conférences publié à titre posthume, François Varillon est l'une des voix les plus puissantes d'après le Concile. C'est un conférencier infatigable. Et puis voilà, que Jean-François Rode, qui est là, me met entre les mains cette conférence inédite sur la foi, rassemblée et présentée par Dominique Salin. Dominique Salin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en théologie, vous avez été rédacteur en chef adjoint d'études dans les années 84-89, et puis vous rassemblez cette conférence inédite sur la foi, un livre qui est totalement décoiffant et que je recommande vraiment à tous nos auditeurs. Quand et comment avez-vous retrouvé ces textes ?
Ils sont venus à moi. J'ai pris ma retraite de professeur du Centre Sèvres à Montpellier et j'ai rencontré des gens de Béziers qui étaient en possession d'un recueil de conférences, de 12 conférences, que le père Varillon avait donné à Béziers dans les années 75-76. Et ces conférences avaient été enregistrées avec des cassettes de l'époque et elles avaient été repiquées, c'est-à-dire qu'une secrétaire avait mis par écrit le texte de ces conférences qui avait été renéoté à quelques exemplaires, et l'un des propriétaires me les a apportés à l'issue d'une conférence au cours de laquelle j'avais parlé de Varillon. Il m'a dit « Est-ce que ça vous intéresserait ?» Alors j'ai dit « Oui », et j'ai trouvé que plusieurs de ces conférences, sept exactement, étaient pratiquement entièrement inédites, alors que le contenu des autres avait été utilisé plus ou moins par Mgr Housset pour l'édition du livre dont vous avez parlé, « Joie de croire, joie de vivre ».
Alors donc, on a sept conférences, sept chapitres, le péché originel, peut-on croire au miracle, qu'est-ce qu'un sacrement, que signifie le Christ est mort pour nous, l'Eucharistie, sens de la mort pour le chrétien, faut-il être traditionnel? C'est quand même sept questions qui sont urgentes, j'allais dire, et totalement décoiffantes lorsque on entre notamment dans le sacrement, et puis alors particulièrement dans l'Eucharistie, là, on est étonné. Il y a ce formidable passage où il y a des bonnes sœurs qui lui disent « Mon père, on va vous montrer comment on définit l'Eucharistie aux enfants. » Et il montre une sorte de dessin. Et quand on tire sur la ficelle, l'hostie se change en corps du Christ. Alors, elles sont toutes contentes de lui montrer ça. Et il leur dit « Mais pas du tout, vous êtes dans l'hérésie, vous êtes des marxistes. » dit-il.
Vous allez fabriquer des athées.
Ouais. Quel est le fondement de la pensée de François Varillon ?
Le fondement de la pensée de François Varillon, en fait, il a vécu en étroite symbiose avec de grands théologiens comme Henri de Lubac, Urs von Balthasar, à Fourvière, et au fond, c'est un homme qui a traduit dans un langage accessible à tout le monde,
oui, il faut
d'abord des étudiants à Paris, à Lyon, etc. Il a traduit dans un langage accessible la nouvelle théologie, la nouvelle façon de penser le christianisme qui s'est affirmé, qui s'est déployé au Concile Vatican II. Donc déjà avant Vatican II, il avait l'art de traduire pour des jeunes et des publics moyennement cultivés, ou même peu cultivés, les vérités de la foi, comme on dit.
Pour donner un exemple, justement, sur cette limpidité, au lieu de parler de surnaturel ou de surnaturel dans le cadre des sacrements, il dit, pour ma part, le mot que je préfère, c'est le mot biblique « alliance ». C'est le centre de la Bible, alors qu'au moment le plus solennel de la messe, nous rappelons que l'on consacre le calice de la nouvelle et éternelle alliance. Je crois que c'est le mot « alliance » qui est le meilleur. C'est tellement simple.
Oui. Voilà, une réalité humaine. Faire un pacte, faire une alliance, ça parle. Et au fond, la façon qu'il a de présenter le sacrement de l'Eucharistie renvoie d'abord à des réalités humaines, anthropologiques, disons, très très simples. L'Eucharistie, c'est d'abord un repas.
Oui.
Et alors, il passe du temps à expliquer ce que c'est qu'un repas, ce que ça signifie. Et donc, ça rend le sens originel de l'Eucharistie pour des gens qui assistaient à la messe à l'époque, en latin, un prêtre dos tourné à eux, au fond de l'église, marmonné pour lui-même. Comment voir un repas là-dedans ? Alors, il restitue cette réalité du repas et de tout ce qui peut se partager au cours d'un repas en marquant l'originalité de l'Eucharistie.
Et la fraternité que représente le repas.
La fraternité.
Moi, c'est sa méthode qui me stupéfait. Vraiment, il a un don extraordinaire pour se mettre à la portée des gens. Il aborde vraiment les questions de fond, les questions de front. Quand il fait une conférence sur que veut dire Christ est mort pour nous, écoutez, si vous êtes, vous faites le catéchisme, ou même vous expliquez à des étudiants, on vous dit de but en blanc, expliquez-nous, Christ est mort pour nous, qu'est-ce que ça veut dire vraiment ? Franchement, c'est pas si facile que ça à faire. Et lui, il fait une conférence qui est incroyablement claire, intéressante, passionnante, y compris pour des gens justement qui ne sont pas directement branchés.
Il l'écrit lui-même. Mon souci dans chacune de ses conférences, c'est de vous ramener à l'essentiel et de vous dire que si cet essentiel est oublié, le christianisme n'est finalement qu'une mythologie. Or, quel est l'essentiel ? C'est que le dessein de Dieu, quand il crée, c'est de s'unir à tous les hommes dans l'amour et de leur faire partager sa vie propre. Et ça, c'est une phrase de saint Irénée de Lyon qui nous dit que Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu, et que Varillon reprend lui-même et va développer tout au long de ses conférences.
Tout à fait. Tout à fait. Dieu, c'est pour lui, c'est pas d'abord une récompense au terme d'un long itinéraire de contemplation, de dépouillement, comme chez Jean de la Croix.
Oui.
Dieu, c'est une force créatrice qui crée l'homme créateur. Dieu nous a créés créateurs. Créateurs d'abord de nous-mêmes. Et dit-il, il a le sens des formules, Dieu nous a créés le moins possible. Et c'est admirable, cette formule. Et on se rend compte à ce moment-là que l'homme, être homme, c'est une tâche qui est offerte à chacun, et c'est à chacun de nous créer nous-mêmes. Il va jusqu'à dire cela. Et en nous créant nous-mêmes, en nous humanisant, en nous laissant humaniser, nous nous laissons diviniser. Oui. Car Dieu ne peut diviniser que ce qui a été humanisé. Il a cette formule.
Absolument.
C'est quelque chose qu'on n'oublie pas.
Vous disiez qu'il fallait travailler 4 fois dans le recueil. Il y a l'expression qu'il faut retrousser nos manches.
Ah, tout à fait.
Ça, c'est très important chez lui, j'ai l'impression.
Tout à fait, tout à fait. Il fait partie de ces hommes. Bon, il a vécu à une époque, il faut le dire, particulièrement tourmenté et permettant à l'homme de se réaliser, la période de la Deuxième Guerre mondiale
et puis
de l'après-guerre.
Eh oui.
La Deuxième Guerre mondiale et la reconstruction de l'Europe et la reconstruction du monde. Et il a été très sensible à tout ce qui était possible de faire à ce moment-là. Il a beaucoup encouragé les chrétiens, les laïcs, à construire vraiment une civilisation, la civilisation de l'amour.
Alors, ça c'est très jésuite, mais il y a un mot qui irradie absolument l'ensemble de ces conférences, c'est la liberté.
Tout à fait. Dieu nous a créés libres de choisir contre lui, éventuellement, mais il nous a invités à nous laisser libérer par la parole de Dieu, et Dieu ne veut pas des esclaves. Dieu ne veut pas être aimé par des esclaves.
Il ne veut pas d'hommes soumis.
Voilà. D'hommes soumis.
La liberté consiste toujours à préférer la mort au reniement de soi. On est un homme libre quand on préfère sacrifier sa vie plutôt que ses raisons de vivre. Quelle belle définition du témoignage et du... Oui, on est un homme libre quand on préfère sacrifier sa vie plutôt que ses raisons de vivre.
Mais il a des formules, toujours des formules, effectivement, qui font tilt, comme on dit, et il a toujours une manière de rentrer dans le raisonnement de l'autre. Il dit à un moment, il est toujours très important pour nous, chrétiens, que nous nous mettions, si j'ose dire, dans la peau de ceux qui doutent et soyons capables de dialoguer sérieusement avec eux. Il ne fait pas simplement un énoncé de ce que nous croyons, il essaie de dire oui, mais alors aujourd'hui on parle de sacrement, mais en fait un sacrement aujourd'hui, c'est pas si facile que ça. Pourquoi est-ce qu'on comprend pas très naturellement pourquoi est-ce que vous, étudiants qui êtes là, le mot sacrement ça vous dit pas grand-chose. Et il essaie de comprendre où est-ce que ça coince.
Ouais.
Il explique la notion de signe, et c'est remarquable. On lit ça, c'est quelques pages, hein, mais on comprend vraiment beaucoup de choses. Et tout d'un coup, on se dit que les auditeurs, et nous maintenant les lecteurs, ben voilà, on peut rentrer dans, dans une compréhension de choses qui sont extrêmement fondamentales. Et pas si facile que ça à présenter simplement.
Et il va nous donner de la gourmandise envers les sacrements. On est gourmand de sacrements lorsqu'on lit « Les sacrements ont pour but de transformer notre histoire purement humaine en une histoire purement divine. »
Absolument.
Bah là, on va tout de suite... on va aller 15 fois à la messe par jour.
Alors, non, c'est pas son genre, parce que pour lui, la messe, enfin l'Eucharistie, ne peut être une action de grâce que pour la vie. Et la vie, c'est le lieu principal de l'expérience de Dieu. Bien sûr, la messe aussi, mais la vie, l'existence. Il a préparé, il a été très tôt aumônier de jeunes, de jeunes des Cagneux, de Lyon, puis ensuite à Paris, des jeunes de la CJF, c'est-à-dire des étudiants qui allaient ensuite avoir de grandes responsabilités dans la société française. Bon, il a formé René Raymond, il a formé Jacques Duquesne, il a formé tous ces jeunes gens, Claude Salles, des gens qui ont été des grands journalistes, Jean Boissonnat, etc. Et il avait le sentiment, il avait le pressentiment que ces jeunes gens vivraient dans une société qui ne serait plus chrétienne et qu'ils auraient à rendre compte de leur foi en des termes qui soient compréhensibles par des gens qui ne sont pas de la chrétienté. Parce que la chrétienté, bon, feu la chrétienté n'avait pas encore été publiée, mais pas loin, il avait le sentiment que voilà, il fallait préparer ces jeunes à rendre compte de leur foi. Il s'est attaché à leur fournir les outils intellectuels et religieux, bibliques, qui leur permettraient de s'expliquer.
Alors là, je peux le dire vraiment pour tous nos auditeurs, cette conférence inédite sur la foi publiée aux éditions Jésuites, conférence rassemblée et présentée par vous, Dominique Salin, cette conférence inédite sur la foi de François Varillon, ça devrait être le catéchisme qu'on a dans toutes les poches. Vous parliez tout à l'heure de l'action de grâce, Dominique Salin. Ce point est capital, je cite Varillon, ce point est capital, c'est l'action de grâce qui doit être au cœur de la vie. Non pas l'action de grâce comme formule superficielle, mais comme ce sentiment profond qui fait qu'on ne se considère pas comme étant propriétaire des choses.
Voilà.
Alors ça, c'est d'une profondeur formidable. Nous ne sommes pas propriétaires des choses.
Nous ne sommes pas propriétaires des choses, nous ne sommes pas propriétaires de notre liberté même. Vous parliez tout à l'heure de ça. Pour lui, la liberté de l'homme, Dieu crée l'homme libre, mais au service du royaume. Et la liberté de l'homme, au fond, elle n'a qu'un but, c'est de s'unir à la liberté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, comme on dit couramment, c'est faire en sorte que ma liberté rejoigne la liberté de Dieu, parce que Dieu est liberté. Et ça, pour lui, c'est une conviction très, très, très forte. Et nous sommes sur terre pour devenir, par participation, ce que Dieu est par nature.
Oui.
C'est une formule extrêmement forte.
Oui, oui.
Nous sommes sur terre pour devenir par participation ce que Dieu est par nature. C'est un accent assez nouveau dans la théologie latine. Pour les orthodoxes, la divinisation, l'homme est fait pour être divinisé, ça fait partie du vocabulaire assez commun. Dans la théologie latine, qui est beaucoup plus juridique, non quand même. La divinisation, on hésitait à employer cette expression. Et Varillon a eu cette formule un jour dans son livre d'interview avec Charles Hélinger. Il a dit « J'ai été élevé dans une religion dont j'ai dû apprendre en grande partie à me débarrasser. » Et c'est vrai qu'il a sérieusement dépoussiéré le catholicisme. Et en ce sens-là, il est allé dans le même sens qu'un de ses contemporains qui s'appelle Maurice Zindel. Et les gens très souvent me disent mais Varillon, il a été influencé par Maurice Zindel. Alors je dis mais peut-être c'est l'inverse. En fait non, c'est ni l'un ni l'autre. Ils ne se sont jamais rencontrés à ma connaissance. Et je ne crois pas qu'ils se lisaient mutuellement. Ils sont à peu près contemporains.
Oui.
Ils vont tous les deux un peu dans le même sens, mais Zindel plutôt par la voix. Je crois que Zindel est plus mystique, entre guillemets, c'est-à-dire il est plus attentif à la tradition orientale, spirituelle. Varillon est plus latin, c'est l'incarnation.
Oui, alors.
Mais ils vont dans le même sens tous les deux.
Alors, plus latin, je le cite, le Christ est le sacrement de Dieu, l'Église est le sacrement du Christ.
Voilà.
Bing. Alors là, vous posez le livre.
Voilà, et vous avez de quoi réfléchir pour un bon moment.
Et vous avez de quoi réfléchir. Toutefois, j'insiste, ce n'est vraiment pas un livre prise de tête. Hein.
Non, c'est, là, pour le coup, c'est vrai, le fait
c'est
qu'il,
décoiffant,
est,
mais c'est pas prise
qu'il
de tête.
Ait dû expliquer ça, justement, par exemple, à des cagneux, des étudiants, ça l'a, il a pris, alors il avait un talent extraordinaire pour faire ça, mais il avait surtout la passion de transmettre.
Oui.
C'est la caractéristique de François Varillon, c'est, à mon avis, c'est ça. Et quand il prend la parole dans une conférence, quel que soit le public, il a vraiment envie de faire comprendre ce qu'est réellement le christianisme et donner envie, en quelque sorte, d'être chrétien.
Il a commencé très tôt, parce qu'il a d'abord été professeur de lycée, professeur de première, professeur de seconde, professeur de terminale. Et ça l'a formé. Parce qu'il était obligé, quand vous êtes professeur de lycée, vous êtes obligé d'intéresser vos élèves. Et vous savez, des adolescents, même dans les années 30, même si c'était il y a longtemps, j'étais pas spontanément branché sur le christianisme, hein, le catéchisme. Il fallait les intéresser et leur montrer de quoi il était capable de ça. Ça, c'est sûr que c'est un immense pédagogue.
Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il ne cite pratiquement aucun père de l'Église. On n'a pas, comme disait saint Thomas d'Aquin, ou on n'a pas... il y a très peu de citations. Il y a Jean de la Croix pour dire qu'il ne faut pas avoir les idées claires, mais des idées éclaircies.
Ouais.
C'est l'une des rares citations qui sont dans ces sept conférences, et que c'est vraiment un flux d'énergie qu'il donne, mais d'énergie de conviction, de foi et de partage.
Alors qu'en réalité, ces convictions théologiques et même les formulations qui sont les siennes sont reprises des pères de l'Église, car Varillon a fait sa théologie à Fourvière entre les deux guerres, et c'était le moment où le renouveau de la patristique a commencé à se faire entre jésuites et dominicains, d'ailleurs. La collection Sources chrétiennes, qui s'est mise à traduire en français les Pères de l'Église, c'est ces années-là. Et donc, il est contemporain du renouveau, du retour aux Pères de l'Église, après des siècles de scolastique un petit peu desséché. Et sa théologie a été profondément marquée par ça.
Mmh.
La collection Sources chrétiennes qui a été lancée par le père de Lubac, par le père Mondésert, par le père Danielou, et il était aux premières loges, en quelque sorte, pour se nourrir des pères de l'Église. Sa pensée est vraiment très, très, très patristique par rapport à ce que pouvait être la théologie au début du XXe siècle.
Oui, parce qu'il explique très bien, mais il lâche rien, comme on dit.
Ah non, il ne lâche rien.
Au contraire, il prend toujours l'essentiel dans sa radicalité, et c'est ça qu'il veut faire comprendre. Il n'essaie pas d'adoucir la chose.
L'exigence chrétienne.
Au contraire, il remet l'exigence chrétienne, il la rend désirable, en quelque sorte.
C'est ça.
Et surtout parce qu'il la rend compréhensible. On se dit, bah oui, en fait, ça tient bon, ça tient debout.
Sans l'Eucharistie, notre vie est faussée, c'est une vie de propriétaire. Avec l'Eucharistie, notre vie est vraie, c'est une vie de reconnaissance, c'est-à-dire la connaissance réfléchie du vrai. Et alors,
connaissance réfléchie du vrai, c'est vraiment ça qu'il fait.
Ouais. Ben oui.
Chaque mot est pesé, oui.
Chaque mot est pesé. Alors, lorsqu'il parle de l'hostie, le pain, ce que Dieu voit dans ce morceau de pain, c'est toute une histoire. Depuis le laboureur qui a retourné la terre jusqu'au boulanger, en passant par tout le travail de l'agriculture, tous ceux qui ont fabriqué ce qui est nécessaire à la moisson, ensuite tout le travail du minotier, toute l'agriculture et toute l'industrie se retrouvent là. Et c'est toute une histoire. Mais attention, l'histoire du pain, c'est l'histoire du travail, et l'histoire du travail, c'est l'histoire de l'homme, et l'histoire de l'homme, c'est l'homme. C'est extraordinaire.
L'histoire de l'homme, c'est l'homme, et c'est Dieu.
Et oui.
Et il dit quelquefois, le mystère n'est pas que Dieu existe, mais que l'homme existe. Ouais. En réalité, c'est le même mystère.
Mais oui. François Varillon, cette conférence inédite sur la foi rassemblée et présentée par vous, Dominique Salin, audition jésuite. Jean-François Roth, vous avez des livres à nous présenter.
Oui. Alors, je continue avec la Compagnie de Jésus, avec un très beau livre, très important, consacré à Pedro Arrupé.
Mais oui,
qui
le pape noir.
Le supérieur général des jésuites pendant à peu près 20 ans. Un moment crucial. C'est un livre de Pierre Aymonet qui paraît dans la collection Lessius avec la collaboration de la revue Christus. Donc ça s'appelle Pedro Arrupé, un réformateur dans la tourmente. C'est un homme qui a été extrêmement important pour la Compagnie de Jésus, mais même on peut dire pour l'Église, juste dans la foulée de Vatican II. C'était un homme extraordinaire. Il est, bon, il est basque, il a fait une formation de médecin, il a été envoyé au Japon, il a été au Japon, il a été élu, il était là à Hiroshima. Oui.
Il a soigné les brûlés.
À quelques kilomètres d'Hiroshima, il était médecin. Soigner les gens.
Il était maître des novices à l'époque.
Et c'était un homme qui était extrêmement courtois, extrêmement simple, extrêmement intelligent. Il était capable de s'exprimer en 7 langues. Et alors, il avait toujours une formidable envie d'aller aussi à l'essentiel. On parle de lui quelquefois comme une sorte de refondateur de la compagnie, hein, à ce point-là, du moins ses amis, parce qu'il a aussi été extrêmement critiqué. Il a toujours été extrêmement combattu, en particulier même du côté du point de vue des autorités de l'Église. Donc il a eu une vie et un ministère de supérieur qui a été quand même assez compliqué. Il a terminé aussi très malade, il a démissionné parce qu'il ne pouvait plus assumer sa charge. Mais voilà, Pierre Rémonet nous fait un portrait extrêmement...
C'est un personnage incontournable.
C'est un grand type, vraiment. Mmh. Et ce livre-là permet de découvrir un peu tout ce qu'il voulait faire, tout ce qu'il a fait, comment il a dû se débrouiller avec aussi les oppositions, et dans la compagnie, et en dehors de la compagnie. C'est vraiment un des grands hommes du XXe siècle.
Pedro Arrupe.
Pedro Arrupe.
Et alors, vous avez...
Je termine, parce que c'est l'actualité, évidemment. Un livre de Joseph Ratzinger Benoît XVI, sous le titre « Écrits fondamentaux » aux éditions du Cerf. En fait, c'est une sélection de textes.
Ça vient de sortir,
et je le cite parce que, précisément, c'est une sélection bien faite.
D'accord.
Les éditions du Cerf avaient publié beaucoup de livres de Joseph Ratzinger.
Il y en a 65 publiés en France.
Et donc, on ne peut pas lire 60. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup qui ont lu les 65 et pas beaucoup qui vont avoir envie de les lire. Alors donc, je conseille à tous les auditeurs, si vous voulez avoir une bonne
synthèse
de la pensée de Ratzinger sur tous les sujets, en fait, c'est les textes de lui qui ont été extraits de ses travaux et qui permettent de savoir ce qu'il pensait de l'Église, comment il parlait du Christ, comment il parlait de la liturgie, etc. Tous ces grands thèmes. C'est un seul volume, ça fait 250 pages.
Oui, mais c'est vachement bien, parce que ça ne fait que 250 pages.
Je ne dis pas que ça dispense de lire le reste, mais il vaut mieux peut-être prendre ça et éventuellement se dire, ah ben tiens, j'aurais bien creusé la question en prenant le grand livre, mettons, sur tel ou tel sujet qu'il a fait par ailleurs. Mais ça permet de bien commencer.
Ça nous permet d'avoir une vue d'avion un peu sur l'ensemble de l'œuvre de Joseph Ratzinger, le théologien.
Ça s'appelle « Écrits fondamentaux, le testament théologique et spirituel », et c'est aux éditions du Cerf.
Bon, eh bien, nous restons avec la Compagnie de Jésus, avec Pedro Arrupe, aux éditions Les Sus, et puis ce digest, je dirais, de Joseph Ratzinger, Benoît XVI, aux éditions du Cerf, dans les écrits fondamentaux. Et puis, alors, surtout, je reviens encore sur ces 7 conférences inédites sur la foi de François Varillon, que vous avez rassemblées, que vous présentez, Dominique Salin. C'est un livre décoiffant et qui nous plonge vraiment dans notre dimension de chrétien. Cette dimension, à propos du sacrement, il dit on change de dimension à travers le sacrement. Par exemple, un homme marié, il a cette dimension conjugale. Un homme un prêtre, il a cette dimension. Et donc, ce sont ces dimensions-là, ce sont les différents sacrements qui nous apportent cette dimension, c'est ça.
Qui donnent du relief à notre vie.
Est-ce qu'on peut citer sa devise, Christophe, qui est rappelée au dos du livre?
Oui, allez-y.
Une main sur la beauté du monde, une main sur la souffrance des hommes, et les deux pieds dans le devoir du moment présent.
Pas mal quand même, hein? C'est formidable, mais c'est très terrien.
Ouais, sur la beauté du monde, une main sur la souffrance des hommes, et les deux pieds dans le devoir du présent.
Qui étaient les parents de François Varillon?
Un notaire.
Oui.
À la religion austère, c'était des catholiques, ces catholiques lyonnais admirables, cette religion catholique du début du XXe siècle, un peu confite, un peu triste ou nette, mais très sociale aussi.
Oui.
Mais c'était une religion un peu triste, un peu du devoir.
Oui, ben alors.
Il en a fait une religion de la joie.
Il en a fait
le mot de la joie. Il a été très fasciné par Claudel. N'oublions pas que c'est lui qui a édité le journal de Claudel, dont il était devenu le confident à la fin de sa vie, à la fin de la vie de Claudel. Et c'est la joie.
la joie. Merci Dominique Salin, on va rester sur ce mot qui résume toute la pensée de François Varillon. Merci à Paul Monconduit pour la réalisation, Philippe Alpeche pour le générique, François Dieudonné pour l'organisation des studios Louis-Marie Picard qui vous permet de réécouter l'émission et de la rediffuser. Demain, nous retrouverons Jean-Luc Génère et Nadir Amaoui pour l'actualité théâtrale et elle est riche en cette deuxième partie de saison, je vous prie de le croire. Allez, à demain, bonne journée.